Et c'est notre interview de C'est de la locale, et aujourd'hui je suis en compagnie de Fab au téléphone, membre du groupe iTone, groupe de dub emblématique de la scène française. Vous venez de Lyon, comment ça va Fab?
Eh ben écoute, ça va super bien, presque de retour de nos deux premières dates sur la tournée. On a joué à Bordeaux et à Figeac là ce week-end, et voilà, bien chaud de commencer sur cette tournée là.
Et oui, c'est une tournée à l'occasion de la sortie de votre nouvel album Time Has Come. C'est globalement, c'est le 7e, non, 8e, c'est ça?
Alors, les gens s'en mêlent un peu les pinceaux parce qu'il y a eu un disque qui s'appelle Basse Température qui a réuni en fait 3 LP, 4 titres, 3 maxi 45 tours qui ont fini sur un CD que nous, iTone, on ne considère pas comme un album puisque c'est des 3 époques différentes, c'est pas forcément. Et celui-là, donc Basse Température, il est souvent pris pour un album. C'est pour ça que les gens oscillent un petit peu entre 7 et 8. Moi, je le considère comme le 7e album d'iTone.
D'accord, et donc 7 albums, tous réalisés, mais y compris Basse Température chez Jarring Effect. J'ai une petite question pour débuter. Votre nouvel album Time Has Come, est-ce que c'est en référence au fait que votre dernier album était sorti il y a 5 ans et que je crois qu'il n'y avait pas eu de période si longue sans un album de votre part?
Alors effectivement, tu notes bien qu'effectivement c'est peut-être bien le trou le plus important entre deux albums d'iTone. Time Has Come, non, l'idée elle n'était pas trop là. C'est plus qu'on a par un ami, Chantilly en fait, qui est un grand fan de rock psychédélique, écoutait pas mal de sons quand on est parti en Chine avec le projet de Binvader, là c'était l'année dernière, et dans tous ces trucs de rock psychédélique il y avait pas mal de bandes sons de textes de Timothy Leary qui, je sais pas si je dois le présenter, mais qui est une sorte d'apôtre du LSD dans les années 70. C'était un professeur d'une université à New York en fait qui expérimentait pas mal à cette époque où c'était libre, et effectivement on a écouté pas mal de ces bandes sons, et puis il parle avec une sorte de conviction, d'engouement. Il y a quelque chose d'un peu très convaincu, très prenant dans tous les textes, et on a effectivement samplé pas mal de bouts de voix de ces textes de Timothy Leary qu'on avait à ce moment-là et qu'on retrouve dans l'album, dont la fright Time Has Come, To Go Out of Your Mind, qui fait partie d'un des morceaux et puis qui où est tiré le titre. Puis on trouvait effectivement, mais après ça résonne bien ce que tu dis quand même, le temps est venu, bon, mais il y a une petite attente, donc après c'est un peu sous forme de question, hein. Après aux gens de l'interpréter comme ils le sentent. C'est toujours un peu le propos d'iTone, de proposer un propos qui soit pas noir sur blanc, qui soit un petit peu de forme énigmatique et que les gens fassent leur chemin. Voilà.
Et alors, iTone, vous êtes 5 dans le groupe. Je voulais te demander, vous avez commencé en 97 à faire du dub, c'est-à-dire vraiment pendant les débuts, en quelque sorte, du dub.
Complètement, même
en France.
Dire, avant d'arriver à ce premier album de 98, ça fait déjà 4-5 ans déjà qu'on apprenait à faire de la musique, mais qu'on était déjà sur du reggae, du dub, des choses comme ça.
Et justement, je vais vous demander du coup, comment est-ce que vous en êtes venu à monter un groupe de dub à Lyon aussitôt, en quelque sorte? Comment vous avez découvert le dub à cette époque-là?
Alors en fait, il s'est trouvé que on n'a pas découvert le dub par la scène vraiment proprement dite reggae, qui à Lyon, à cette époque-là, c'était beaucoup de gros groupes qui passaient. On pouvait voir U-Roy, on pouvait voir LKJ, on pouvait voir Aljaman. Ça, c'était des groupes qui tournaient beaucoup à l'époque, Burning Spear, Gladiators, des choses comme ça. Et en fait, dans le public, un peu reggae comme ça, il n'y avait pas encore cette connaissance vraiment de ce que peut être le rubadub, de la musique des toasters comme Big Youth, U-Roy, des choses comme ça. C'était pas vraiment pointu, on va dire. Et il y avait peu de boutiques aussi de disques, et on n'y trouvait pas énormément de choses à cette époque-là. Internet n'existait pas non plus. Et en fait, c'est beaucoup par le biais de gens qui viennent de la scène punk rock, qui eux étaient clairement beaucoup plus connectés avec la scène de Londres et avec les boutiques de disques et les gens qui brassaient à Londres. Et effectivement, les Jamaïcains ayant migré à Londres et puis ont commencé à poser leur son de système et les Jashaka et tous ces trucs-là, il y a quand même une forte connexion entre les blancs et les noirs, d'où toute cette musique ska, rocksteady et cet intérêt pour les groupes de punk à jouer du reggae. Et du coup, effectivement, dans les bacs de disques de ces gens-là qui étaient plus vieux que nous on avait 14 ans, un truc comme ça à peu près, on traînait avec des gens qui en avaient plus, qui avaient 18-19 et qui avaient des grands frères et qui ramenaient beaucoup de vinyles. Et là, on est tombé sur King Tubby, on est tombé sur Lee Perry, on est tombé sur Dr. Alimentado, sur Big Youth. Et effectivement, ça faisait un fossé entre ce qu'on pouvait entendre comme reggae, Alpha Blondie, Bob Marley et compagnie d'un côté, et puis tout d'un coup de découvrir des choses beaucoup bien, vraiment différentes et plein d'univers esthétiques différents. Ils écoutaient aussi beaucoup de rocksteady hein, quand même dans le punk, enfin, on écoutait du très roots à des choses beaucoup plus digitales, mais voilà, on a eu accès à 14-15 ans à une culture qui était, quand on n'avait pas d'internet et pas de connaissances, assez pointue en fait finalement, et ça nous a tout de suite botté. Puis il y a aussi, je peux peut-être faire un petit big up pour la radio qui s'appelle Dub Action, qui est sur Radio Canu. Donc nous, on est parti vite sur les pentes de la Croix-Rousse.
C'est à Lyon, ça aussi.
La Belgian Effect, voilà, qui est un quartier un peu particulier, où il y a eu beaucoup de révolutions, très prolétaires, très rebelles comme quartier, quoi. Et il y a une radio qui s'appelle Radio Canu, qui existe depuis fin des années 70, qui est une radio libertaire, faite d'associations, dont il y a eu cette émission Dub Action, où les gars étaient super pointus, et on pouvait, une fois par semaine, écouter ça. On enregistrait les tapes, à l'époque, de cassettes de cette radio, et il y avait plein de choses qui sortaient aussi. Et voilà, c'est là que tout doucement, voilà, va un peu émerger un petit peu toute cette culture à Lyon, quoi.
Ah bah en plus, c'est vrai que c'est un bon dérivé, quand même, le dub à la base, de toute façon, du rocksteady. C'est les ingénieurs du son qui ont commencé à l'époque.
Totalement, ouais. Ils ont commencé à dubber ces morceaux-là. Avant de dubber des morceaux plus modernes, on a déjà des choses de. Je pense à Uroy, par exemple, qui prenait plein de vieux morceaux, et puis qui sont partis. Déjà, alors, il n'y avait pas une approche encore en termes de mix très développée, mais on avait déjà cuté la voix, on avait rendu le morceau plus minimal. On se servait un petit peu des refrains, et puis après, le toaster, il arrivait et remplissait les couplets. Et puis c'était ça, hein, ce qui passait dans les sound systems aussi dans la rue en Jamaïque. Et c'était l'origine quand même du dub et de plate et compagnie, quoi.
Pour continuer de parler un peu de l'origine, de vos origines, mais c'est toujours actuel. Vous êtes sur le label d'ailleurs, donc Jarring Effect, mais ça depuis le début de votre carrière, quoi. Vous êtes également aussi l'un des deux premiers groupes en fait de Jarring Effect. C'est assez rare de faire autant d'albums et sur une aussi longue période pour un groupe de rester, je crois, fidèle comme ça à un label.
Faut partir à l'origine du label en fait, qui était un local de répète et qui était tenu par notre premier sonorisateur, qui travaillait dans une boutique de disques de vinyle. Mm-hmm. Pareil, grand amateur de musique. Que ce soit du punk, du reggae ou du hip-hop, tu vois, des choses comme ça. Et il était aussi un peu sonorisateur, et c'est lui qui nous a découvert un petit peu et sonorisé sur nos premiers concerts. Il avait aussi acheté un 508, un vieux Mercedes. Et voilà, il nous a pris dans son camion. Il avait quelques années de plus que nous. Il avait un camion, il savait sonoriser, et il nous a sonorisé et porté sur nos premiers concerts un peu à droite à gauche, avec son local de répète dans lequel on répétait. On trouvait aussi des groupes comme Crazy Skankers, qui était le chanteur, c'était Sergent, c'est un bon pote à nous qui était sur Lyon. Donc voilà, un petit vivier un peu reggae, punk, machin de la Croix-Rousse, de ce quartier dont je te parle effectivement, qui est très militant et où ça bougeait beaucoup à l'époque. Et puis voilà, donc c'est lui qui a décidé de monter le label, et en fait ça s'est fait sur le premier album d'Itome, Opus Incertum. C'est le premier album d'Itome, et c'est aussi le premier album du label. Donc voilà, ça c'est historiquement, bon, ça s'est passé comme ça. Après, nous, on préfère travailler avec des gens qu'on connaît, bien que le label ait beaucoup évolué et tout ça, on préfère être avec des gens qu'on a sous la main, surtout que la volonté du label, c'est d'être un label indépendant, de laisser totale liberté aux artistes, voilà, et que nous, c'était des valeurs qu'on défendait à travers justement ce mouvement un petit peu punk anarchiste et tout ça, de pas de publicité, d'indépendance, de choses comme ça. On a toujours refusé des approches un peu de gens, je sais pas, un peu opportunistes, ou voilà, même qui auraient eu plus d'argent, peut-être qui nous auraient permis de faire d'autres choses. En même temps, on préférait garder notre liberté et contrôler un petit peu tout, que ça soit aussi le prix des places pour le public. On a voulu volontairement longtemps que ça soit peu cher et voilà, d'avoir un peu la main sur tout ça, quoi.
D'accord, donc ouais, sacrée histoire.
C'est une indépendance que tu payes en contre-coup parce que tu manques de moyens, parce que peut-être t'as pas des ouvertures sur certains festivals qui vont se booker avec des gens qui connaissent, ou vers l'international, où c'est des, tu vois, des univers un peu différents. Mais c'est des choix qu'on a fait voilà, avec iTone, quoi, du départ.
Et ça a continué et ça a marché, quoi.
Il y a des avantages et des inconvénients, et il faut savoir assumer quand tu veux quelque chose d'avoir les avantages et les inconvénients, et c'est ce qu'on a fait, quoi, voilà.
D'accord, et donc justement on va parler un petit peu de ce que vous avez fait là récemment avec l'album Time Has Come. Je trouve que c'est un album qui remarque un sacré changement du moins dans la manière dont vous approchez la dub dans ce dernier album, et je me demandais du coup sur ces 5 dernières années si vous aviez eu des influences nouvelles en fait qui pourrait transparaître un peu dans cet album, qui je trouve peut-être un peu plus électro.
En fait, je pense pas vraiment qu'il y ait de nouvelles influences dans cet album qui soient issues de courants musicaux qui soient arrivés récemment réellement, quoi, comme je sais pas, le trap ou les bassins tropical bass ou des choses comme ça. Bien que notre batteur soit beaucoup plus de par ses voyages en Afrique et ses projets solo intéressé par la musique africaine et l'électro qui se passe là-bas, non. Par contre, il y a des choses qu'on a peut-être moins mis, c'est-à-dire il y a peut-être un côté un peu breakbeat, drum and bass qu'on va pas du tout retrouver. Côté dub qu'on avait complètement laissé tomber sur le côté d'Ekfron, qu'on reprend quand même un peu plus. Après, la volonté peut-être d'une musique un tout petit peu plus minimale, un peu plus techno. Mais la techno, j'ai envie de te dire que moi j'ai participé au mouvement techno fin des années 90, milieu même des années 90. On connaissait quand même bien les acteurs locaux de la région. J'ai quand même pas mal écumé les sound system, et que je suis autant amoureux de la culture sound system reggae que la culture sound system techno dans les valeurs qu'elles défendent, dans cette idée de gens qui produisent leur musique eux-mêmes, qui la diffusent eux-mêmes avec des systèmes adaptés et dans des lieux qui correspondent un petit peu à une volonté. Donc pour la techno en l'occurrence, j'étais quand même très très séduit par le nomadisme, par l'indépendance, par voilà, le fait de créer sa musique, la diffuser, aller jusqu'au bout de la démarche qui ressemble un petit peu à celle du dub, où aussi ils créent leur sound system, ils créent leur musique, ils la diffusent. Donc beaucoup de respect en fait pour cette culture du sound system, hein. Donc du coup voilà, bon, moi ça a toujours été des trucs que j'ai aimé, mais qui voilà, peut-être moins. Il y a eu des trucs un peu techno dans iTone par le passé, hein, des petites choses. Celui-là peut-être il y a quelque chose un peu plus techno minimal qui se mélange avec le dub. Le titre comme qu'on a fait avec la chanteuse Chacha est un bon exemple, ouais, hein, une sorte d'hybridation techno dub. Tu disais dub. Peut-être ce que je peux rajouter quand même, peut-être c'est juste le fait que tu disais qu'on était 5. Effectivement, oui, on a été 5 pendant 20 ans, et en fait depuis la tournée dub to dub de l'année dernière là, et cette tournée, on n'est plus que 4. Donc déjà ça peut déjà modifier un petit peu, peut-être, tu vois, l'apport d'un musicien en moins dans le truc. Et puis aussi le fait, peut-être, on a utilisé beaucoup plus l'informatique sur cet album.
Un peu contraint, forcé,
parce qu'on n'avait pas de local de répète, qu'on manquait un peu d'espace, qu'on utilisait plus l'ordinateur. Et ça aussi, toutes ces petites choses font que des fois inconsciemment ou inconsciemment, le son évolue. Après, c'est aussi dans notre volonté, hein. Chaque album d'iTone a pour but de ne pas ressembler à celui d'avant, quoi.
Et ben justement, voilà. c'est un album aussi qui a eu comme point de départ, en fait, une tournée en Asie. Je vois ça. Comment ça a pu justement vous redonner envie visiblement de refaire un nouvel album, cette tournée en Asie
L'envie elle y était, hein, en fait. L'envie elle y était, c'est juste qu'il y a eu pas mal de choses qui ont fait que des enfants, des choses comme ça, fait qu'on a eu moins de temps là à consacrer pour la musique. Mais en fait nous on était toujours là, on faisait nos projets de Binvider, on était quand même là à faire de la musique. On n'est pas sorti totalement du truc, quoi, et on savait qu'on allait faire un album avec iTone. Simplement, effectivement, il mettait plus de temps que prévu. La tournée, comme je te disais, c'était une tournée d'Invader, mais donc on a fait 5 dates à Shanghai, Chengdu, enfin dans différentes villes de Chine. Par contre, on s'était prévu un arrêt à Chengdu de une semaine dans un lieu qui s'appelle le Mangaus, où il y a un vivier de musiciens à Chengdu. Ça fait local de répète, mais les gens viennent, ça brasse un peu. On a un droit de vie, et on avait pour nous une pièce avec des micros où on pouvait faire du son et enregistrer des gens, et on les a contactés en amont pour leur dire nous on voudrait enregistrer des instruments traditionnels, donc essayer de contacter des gens qui potentiellement seraient intéressés pour faire des prises de son pour nous. Et nous on est arrivé avec un peu de matériel de notre album, et puis on leur a dit essayer des choses dessus, et on a enregistré plein d'instruments à cordes, avant, à peau, voilà. Et donc du coup ça nous a fait un matériel qu'on a utilisé, voilà. Plus la rencontre avec la chanteuse aussi, Yéyan, qui s'appelait aussi Chacha avant, donc elle a changé de nom, mais voilà, qui nous a enregistré une track, et on est aussi parti avec une équipe là qui a filmé le clip, qui nous a un peu suivi aussi. Donc deux potes qui sont venus caméra à la main, et puis qui nous ont un peu suivi dans les rues, qui ont enregistré un peu les enregistrements et tout, et puis qui ont suivi aussi la chanteuse, et on en a tiré le clip.
Chacha, ouais, c'était justement celle qui avait fait un son Black Eye Stranger, ouais, que j'avais beaucoup aimé. T'es déjà dans le dub en fait avant aussi.
Ouais, là. Avec les Mongoose, elle a fait des choses. Elle touche un petit peu à différents milieux en fait. Hein, elle fait aussi sa carrière en solo, et voilà, bon, c'était une bonne rencontre. Ouais, très content de ce qu'on a fait ensemble, et puis on espère que elle aura l'occasion peut-être de tourner en Europe, et qu'on puisse faire peut-être jouer ce morceau en live quoi, ensemble, ce serait chouette.
Bah ouais, justement, et en parlant de live et de tournée, vous avez pas mal de dates de prévues là qui arrivent. Vous avez notamment une date au Trianon le 25 avril prochain, là c'est bientôt, et puis pas mal de festivals, je crois, pour cet été. Vous allez faire le festival des Mouillotins notamment, c'est à Poix, vous allez faire donc ça c'est le 8 juin, mais plus près il y a le Printemps Sonic qui arrive le 10 mai.
Est-ce que
c'est en mai je crois, les Printemps Sonic, ouais, c'est ça, à Luisan. Justement, est-ce que vous avez prévu de faire une grosse tournée même pour après l'été encore, parce que là je vois que des dates que jusqu'en juin, mais
ouais bien sûr. Alors on s'est arrêté à mi-juillet, parce qu'en fait on fait une pause l'été dernier, ça a été un peu l'inverse, on a tourné avec Dub to Dub, on a fait vraiment tout l'été, on s'est un peu sacrifié nos familles, donc là on avait prévu quand même d'arrêter donc mi-juillet, mais par contre on repart fin septembre, et je sais déjà que notre tourneuse nous dit qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger, donc on va effectivement repartir en salle fin septembre jusqu'à début décembre, quelque chose comme ça à peu près quoi, et qu'il y a pas mal d'endroits où j'entends des fois les gens qui disent vous passez pas à Toulouse, vous passez pas à tel endroit, et c'est prévu pour cette deuxième partie de tournée, et voilà, et là je sais que on était guichet fermé à Bordeaux et à Figeac, et on était super contents, et le public aussi quoi, vraiment pour un départ on est vraiment super contents de l'ambiance qu'il y a eu sur les nouveaux morceaux, et puis sur l'ensemble du set. On fait un set qui est relativement long, bien intense, et on n'a pas vraiment super, moi j'ai super hâte d'arriver au week-end qui arrive là pour continuer, parce que voilà, c'est vraiment bien parti.
Je te propose qu'on s'écoute un morceau de votre dernier album, du coup est-ce que tu voudrais en choisir un peut-être qui te tient à cœur, que tu voudrais qu'on passe pour nos auditeurs?
Moi comme l'album est court, on a vachement écrémé, on a fait beaucoup plus de morceaux que ceux qu'on peut entendre, donc ceux qu'on a mis moi je les défends tous. Après j'ai moi un petit moi j'adore le Ritual of Death, qui était une base que j'avais lancé moi il y a longtemps, puis que j'avais un peu oublié, avec des bouts de musique mongole et choses comme ça, et notamment c'est celui où il y a eu le plus d'enregistrements de musiciens chinois dessus, c'est un truc assez trippant, donc celui-là j'aime bien, Ritual of Death. Après vraiment comme je te dis, je les aime bien tous, donc pourquoi pas celui-là.
Va pour Ritual of Death carrément. On se passe tout de suite Ritual of Death du dernier album de iTone, c'est Time Has Come, il est sorti là début 2019 chez Jarring Effect. C'est tout de suite sur Radio Pulse 90 FM. Thank you. Et voilà, c'était eh bien Ritual of Death pour l'album Time Has Come, dernier album eh bien des Hightone. Je te remercie beaucoup, Fab, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu voudrais peut-être rajouter quelque chose avant de terminer?
Comme ça, chaud, je sais pas, tu me prends un peu de court. Je voudrais juste inviter les gens à venir nombreux à notre concert, ça c'est net, et venir voir Hightone en live, parce que voilà, on est un groupe de live, c'est vraiment là qu'on comprend mieux le groupe, que l'album fait que 38 minutes, mais que le live lui fait 1h40, et que voilà, c'est là que ça prend vraiment toute sa saveur. Donc,
et,
voilà.
Et justement, pour rappeler une date, par exemple, pour nos auditeurs, une date pas très loin de chez nous, que je n'avais pas dit tout à l'heure, c'est le 28 juin, il y a le festival des Bichoiseries à Cerisay Belle Étoile, et vous y serez justement à ce festival-là. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre aux Bichoiseries pour aller voir un petit peu ce que ça peut donner, d'ailleurs, votre dernier album en live, Time Has Come. Je te remercie beaucoup, Fab, d'avoir répondu à mes questions.
Ouais, je te remercie aussi. Allez, pour dire une petite chose comme ça, un peu plus politique, juste pour finir, si c'est possible encore.
Vas-y, vas-y.
Juste de dire que quand même, Time Has Come, ça peut aussi vouloir dire un peu qu'en ce moment, il se passe quand même des choses un petit peu graves au niveau de la planète et qu'il est aussi peut-être temps qu'on bouge aussi. Et voilà, c'était juste un message pour dire comme ça, que ça soit au niveau de écologique ou politique ou plein de choses, il est vraiment temps que les gens se réemparent un petit peu de leur destin. Voilà.
Je te remercie beaucoup pour ce message.
Je te remercie.
Et à la prochaine, Fab, et bonne tournée pour cet été.
Merci, salut.